Douglas Kennedy, très heureux de vous recevoir ici dans ce magnifique salon. Je vais résumer en quelques mots
Très,
votre.
très Louis XIV, oui.
Oui, un peu. Vous êtes né à Manhattan, vous faites bien les choses, vous naissez le premier jour de l'année, 1er janvier 1955. Vous avez grandi aux États-Unis avant de partir pour Dublin, où vous rejoignez le National Theatre of Ireland en tant qu'administrateur. Ça, c'était entre 1978 et 1983. C'est durant ces années que vous commencez à écrire la nuit. En 1980, vous vendez votre première pièce à la chaîne de BBC Radio 4. Et puis en 1983, vous démissionnez du théâtre pour vous consacrer entièrement et exclusivement à l'écriture. Pour survivre, c'est difficile au départ, évidemment. Vous devenez journaliste freelance. En mars 1988, vous déménagez à Londres au moment où votre premier livre, Un récit de voyage, est publié. Deux autres suivront. Ces trois livres reçoivent un très bon accueil critique. Vous restez à Londres pendant 20 ans et aujourd'hui vous vivez essentiellement entre New York et Montréal. Vous publiez chez Bellefond un livre tout à fait étonnant qui sort complètement de votre production habituelle. Toutes ces grandes questions sans réponse, un livre à mi-chemin entre l'essai littéraire, le récit intime et la confession. Pour commencer, Douglas Kennedy, j'ai envie de vous demander. Comment est née l'idée finalement d'aborder ces sept grandes questions sans réponse?
Au début, en fait, je vis à Paris aussi.
Oui, aussi un peu, mais j'ai dit
et
essentiellement.
ça, c'est la raison pour laquelle je suis assez à l'aise dans la langue de Molière. Bonjour à tous.
Il va falloir parler avec le micro
Tout
vraiment
à fait,
tout près de la bouche.
Oui, j'ai une voix très basse, surtout pour un Américain, mais très basse. Le truc où il y a 3 ans, quand j'avais 58 ans, j'ai commencé à faire face à la soixantaine. Moi, 60 ans, c'est impossible. Mais ça arrivait. Et comme tout le monde, en fait, j'ai vécu une vie avec des choses magnifiques, glauques, bienveillantes, malveillantes, et l'ombre de la tragédie, parce que personne n'échappe à la tragédie. Ça, c'est le prix à payer pour vivre. C'est omniprésent. Et franchement, en fait, c'était un moment aussi quand 8 copains, copines, camarades de classe ont lutté avec le cancer. Le dernier trimestre de ma vie, et j'adore la vie. J'ai commencé, franchement, de réfléchir de beaucoup de choses dans ma vie. Et puis, j'ai relu pour la première fois depuis l'université les essais de Montaigne. Je ne suis pas Montaigne. Mais je t'ai escarché par le fait que, franchement, c'était le premier philo-existentialiste qui a utilisé aspects de sa vie pour illustrer, en fait, des points philosophiques. J'ai commencé à réfléchir, peut-être que je peux faire quelque chose comme ça. Ce n'est pas une confession, et aussi ce n'est pas l'autofiction, même si j'utilise beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. L'autofiction, d'après mon expérience, c'est la revanche. Typiquement, il était nul au lit, en fait, ou franchement, il était obsédé par son
Vous
ex.
avez pris l'exemple tout à fait au hasard.
Oui, par hasard, oui. Et je vais mentionner certains noms ou prénoms. Mais en fait, on était ensemble une fois pendant, franchement, c'était un programme littéraire à la télé. J'ai pensé, oh mon Dieu. Qui va coucher avec cette femme? Parce que immédiatement, ce sera dans le calepin et sur la page. En fait, jamais couché avec un écrivain. Mais donc, en fait, j'ai commencé, franchement, de aussi réfléchir du fait que pendant une vie, il y a toujours des questions. Tout le monde cherche des réponses. Mais franchement, d'après mon expérience, derrière des réponses, il y a l'idée de la vérité. Mais est-ce qu'il y a une vraie vérité? Il y a beaucoup d'entre nous qui ont des réponses. Monsieur Trump a beaucoup de réponses. J'ai dit
On
récemment.
a tenu 3 minutes 30 avant de parler de Trump. Bien joué.
Tout à fait. Non, comme j'ai dit récemment, une journaliste m'a dit, oh, Trump, il est le Berlusconi américain. Et j'ai répondu, non, non, il est le Mussolini américain. Et ça, j'en suis sûr de ça. Mais beaucoup d'entre nous, Marine Le Pen a des réponses. Orbán, en Hongrie, il a des réponses aussi. Ça, c'est un point de vue très totalitaire. La plupart des prêtres que j'ai rencontrés pendant mes années en Irlande ont beaucoup de réponses. Mais si on réfléchit de la vie, on a beaucoup de questions. Donc, j'ai décidé d'écrire essaye quelque chose un peu atypique, mais aussi universel. Cette question primordiale au sujet de l'abbé a sans réponse.
Le bonheur n'est-il qu'un instant fugace? Comment cesser d'être l'artisan de son malheur et s'inventer un scénario de vie heureux? Pourquoi le pardon est-il la seule solution? J'ai l'impression que ces thématiques, elles sont omniprésentes dans vos romans. Pourquoi avoir eu besoin de les traiter autrement? Est-ce qu'il fallait expliciter davantage, mettre les points sur les i d'une certaine façon?
Le truc, quand je commence un roman, en fait, je n'ai aucune idée du thème. Ça arrive pendant l'écriture. Il est toujours un personnage dans un film des années 80 de Woody Allen qui a dit, en fait, je vais écrire le grand roman américain et le thème c'est blablabla. Le déclin et la chute de la civilisation américaine, des choses comme ça. Je n'ai jamais pensé du thème. Ça arrive pendant l'écriture. Et c'était la même chose ici, même si j'ai commencé avec une idée. Pendant l'écriture, j'ai découvert beaucoup de choses. Et le truc, pour moi, franchement, par exemple, au sujet du hasard.
La fameuse petite musique du hasard.
La musique du hasard. Quelques exemples. Et tout le monde a une histoire comme ça. 1983, j'étais à Glasgow, un festival du film. C'était mon dernière année au Théâtre National d'Irlande, où j'ai dirigé à la fin, en fait, le petit théâtre. Et j'étais là-bas avec un copain qui était réalisateur. J'ai produit son dernier film pour la télé, moment quand j'étais producteur. Franchement, il y avait une grande réception. J'étais au bar à côté d'une femme écossaise, avocate de Edinburgh, très séduisante, que j'ai essayé de la draguer. Après une heure, c'était évident, rien ne va arriver. Et je lui ai dit, OK, conversation intéressante, peut-être à bientôt, bonne soirée. Je suis allé à la réception, j'ai pris un taxi parce que mon hôtel, c'est de l'autre côté de la ville. Le taxi est arrivé et en même temps, un mec complètement bourré, très glaswegienne, et féroce, comme une chienne allemande, avec une nana très blanche qui n'est pas un prof de philo à Oxford. Et il me dit, mec, ça c'est mon taxi. Et je lui ai dit, mais bien sûr, monsieur, voici votre taxi, bonsoir à vous. Je suis revenu à la réception, désolé, j'ai besoin d'un autre taxi. À cet instant-là, une femme que j'ai rencontrée une fois à Dublin, qui s'appelle Grace, qui travaille au centre de cinéma irlandais, elle est arrivée à l'hôtel. Grace, Douglas, un verre. Ça, c'était le moment quand j'ai rencontré ma femme. Tout le monde a une histoire comme ça. 20 ans plus tard, pendant notre divorce, j'ai commencé à réfléchir. Ma vie aurait été complètement différente et moins chère si j'ai pris le taxi. Mais ça, c'est la musique du hasard.
Comme quoi, il faut insister parfois pour garder son taxi.
Oui, tout à fait. Mais de l'autre côté, je n'aurais pas mes enfants magnifiques. Oui. Donc, je suis très content. Je n'ai pas pris le taxi.
Voilà. Alors, ça, c'est typiquement vous. Parce que dans les 360 pages de ce livre, on se rend compte que vous avez acquis au fil des ans une forme de sagesse. Hein, vous parlez beaucoup de Max et Amélia, vos enfants, en disant que c'est probablement le plus beau cadeau que la vie vous a fait.
Tout à fait, tout à fait. Mais aussi la musique du hasard, mon fils est autiste. Mais maintenant, il est en grande école de Beaux-Arts aux États-Unis. Il va devenir photographe. Il a une vie assez indépendante. Il a eu un stage avec un photographe qui m'a photographé pour le New York Times. Mais il a passé 6 semaines seul à New York, chez moi, et c'est extraordinaire. Mais quand Max avait 3 ans, on a commencé à comprendre qu'il a eu des problèmes développementaux. On a trouvé une école privée qui était franchement pas terrible. Et puis quand il avait 5 ans, par hasard, c'était une matinée, le 20 mai 1998, je suis arrivé à sa chambre et il n'est pas là-bas. Il était là-bas, mais mentalement, il a disparu. Il était dans un état catatonique.
Vous dites que c'était comme s'il avait fait une crise cardiaque.
Tout à fait. Oui, une crise cérébrale. C'était une crise épileptique. Grâce d'une neurologue pédiatrique, en fait, Après 3 mois, il est revenu et puis on a découvert qu'il est autiste. J'ai crié, une copine m'a dit qu'il y a une méthode éducative qui était créée à UCLA pour les enfants autistes qui marchent. Après beaucoup de recherches, j'ai écrit une code pour lui chez nous avec des profs. Et après 2 ans, on a trouvé des codes spécialisés de l'État. Et j'ai négocié pendant 15 ans avec l'État. Le résultat, il est à l'université. Mais pour moi, et ça c'est passionnant, après ça, globalement, en fait, mon point de vue, mein Weltanschauung auf Deutsch.
Ja, ich kann auch ein bisschen.
Ich spreche Deutsch. Mein Weltanschauung a changé. Le fait que, et c'est partout dans mon écriture, le fait que le vernis est très fragile et tout peut changer comme ça. Ça, c'est aussi la musique du hasard. En fait, maintenant, en fait, Max voyage tout le temps, il est très expert de Shakespeare. Il est très anglais. Il va faire un master's l'année prochaine à l'Université de Londres. Je suis très fier de mes 2 enfants. Ma fille est actrice dans un grand conservatoire de drame aux États-Unis. Mais ça, c'est aussi, en fait, c'était franchement pas prévu. Et ça a changé ma vie. Et c'était très intéressant au sujet des thèmes. J'ai commencé à écrire La poursuite du bonheur, qui était le roman qui a changé mon trajet et aussi ma carrière, juste franchement après cette crise. Et quand j'ai terminé le roman 18 mois après, une copine qui était une de mes lectrices fidèles à Londres, qui a lu le manuscrit avant mes éditrices, m'a dit: mais Douglas, même si c'est les années 40-50 à New York, c'est complètement en dehors de cette crise dans sa vie, en fait, il y a le thème constant d'enfant perdu. Je n'en ai aucune idée de ça. Ça, c'est l'écriture aussi.
Alors, c'est intéressant parce qu'en lisant ce livre, qui est aussi une forme de confession, une manière de lever le voile sur votre vie privée, votre vie intime, on a juste envie de relire tous vos romans pour essayer de se rendre compte, finalement, quelle part de votre vie a interagi avec l'écriture des romans. Vous dites d'ailleurs régulièrement dans ces 360 pages ce que vous écrivez, à quel moment. Ça tombe bien parce que vos romans, ils sont tous réédités en ce moment. Il y a 3 romans qui viennent d'être publiés chez Omnibus sous le titre Les fantômes du passé. Ça regroupe La femme du cinquième, Quitter le monde et cet instant-là. Et j'ai envie, parce que j'ai trouvé intéressant, vous avez préfacé ces 3 romans, j'ai envie de lire un tout petit passage qui éclaire, je trouve, d'une manière intéressante toutes ces grandes questions sans réponse. Vous dites: je m'exprime ici en tant qu'écrivain qui, hormis 2 nouvelles, n'a jamais rien produit de directement autobiographique et a toujours tourné le dos à la tentation de régler des comptes par le recours à l'autofiction ou au roman à clé tiré de sa propre expérience. J'ai toute une théorie pour expliquer pourquoi la plupart des livres entrant dans la première catégorie donnent la sensation de se réduire à un exercice de vengeance narcissique et ceux de la seconde de tomber à côté de l'authenticité des émotions. Et du coup, là, dans toutes ces grandes questions, il y a quand même des passerelles entre les deux.
Oui, mais mon Dieu, quand je parle des choses intimes, il y a une certaine pudeur aussi. Et aussi, j'espère, surtout quand je parle de mes parents, et surtout mon père, qui était un homme spécial.
Il y a des pages dures sur vos parents.
Oh, tout à fait. C'était quelqu'un de très, très compliqué. Mais aussi, j'espère qu'il y a une certaine empathie aussi. Et on va discuter l'idée du pardon qui est au centre du livre à plus tard. Mais oui, avec mon père, en fait, même si j'étais dans une très bonne école à New York, un très bon lycée, peut-être le meilleur, et en fait une université extraordinaire, je suis un membre de la classe moyenne. Mon père a grandi dans un quartier populaire dans le Brooklyn. Mon grand-père paternel, c'était un capitaine dans la marine américaine, et toujours absent. Ma grand-mère paternelle, en fait, est morte quand elle avait 40 ans, un infarctus comme ça. Et mon père l'a découvert dans la cuisine. Il était très très proche de sa mère et ça a détruit sa vie. Quand mon père avait 17 ans, il était dans l'armée américaine et dans une petite île qui s'appelle Okinawa, qui était la bataille la plus dure. Oh, c'était féroce. Il était là-bas avec 8 copains de son quartier et il a survécu. Il a une culpabilité immense. J'ai commencé de comprendre des choses à plus tard, surtout pendant la quarantaine, quand enfin il a commencé de parler des choses. Ma mère, en fait, a grandi dans un quartier petit-bourgeois juif. Elle est allemande juive. Franchement, quelqu'un très intelligente, névrotique, et aussi elle est devenue une femme au foyer après la naissance de son premier fils, moi. Et oui, j'ai grandi dans un appart de 60 mètres carrés, dans un quartier très classe moyenne à Manhattan, quand il y avait une classe moyenne à Manhattan. Ça disparu maintenant. Manhattan, c'est un peu comme Monaco. Mais la vérité, c'était un mariage pas terrible, en fait, des disputes constantes. Et dans le livre, je décris des choses, mais pas de manière au pauvre moi. Franchement, j'ai commencé à comprendre à plus tard, à cause de cette situation, je suis devenu très indépendant, très jeune.
Vous avez une phrase magnifique à ce propos, hein, oui. dans le livre. Vous dites qu'on vous pose souvent la question, que ce soit les lecteurs ou les critiques, du pourquoi la culpabilité est un sujet récurrent dans vos romans. Et vous dites, comment voulez-vous qu'il en soit autrement avec une mère juive allemande et un père catholique irlandais?
Oui, la culpabilité en stéréo.
Oui, c'est ça.
mais pour moi, en fait, je n'ai pas quelqu'un de sportif et comme... montrez-moi un écrivain avec un enfant heureux, c'est impossible. C'est comme montrez-moi un écrivain qui ne boit pas. Mais pour moi, en fait, parce que c'était New York et je suis devenu très jeune un accro de la culture. Et quand j'avais 13 ans, ça c'était en fait 68. J'ai demandé tous les années, en fait, j'étais un ado avec des prétentions intellectuelles, mais un abonnement de musée de l'art moderne, parce que la cinémathèque new-yorkaise était au sous-sol. Vous avez une très bonne cinémathèque ici à Lausanne. Je suis très cinéphile à Lausanne, mais ça c'est une digression. Et aussi c'était une époque quand on peut écouter la Philharmonie de New York sous la baguette de Pierre Boulez pour $2, ou les ballets de Georges Balanchine, au City Ballet pour un autre $2, si on était étudiant. Et franchement, en fait, j'en suis sûr que la culture, grâce à la culture, j'ai découvert une famille différente. Et aujourd'hui, en fait, typiquement, en fait, j'écoute 3-4 concerts par semaine.
On va y venir à la musique parce qu'elle est très importante dans ce
livre. Oui, tout à fait.
Elle est très, très importante. Mais vous dites que vous n'êtes pas sportif. Alors là, je ne suis pas d'accord. Parce que le livre commence à Kandersteg, en Suisse.
À Kandersteg, tout à fait.
Où vous pratiquez un sport que vous pratiquez depuis que vous avez 40 ans, c'est le ski de fond.
Oui, oui, maintenant je suis assez sportif.
Oui.
Alors, pas trop, mais assez, oui.
Alors, le ski de fond à Kandersteg, c'est un jour où il neige beaucoup, vous partez seul sur les pistes où la trace est à peine faite, et vous arrivez au bout de l'allée avant de faire le retour, et vous vivez, je ne peux pas appeler ça autrement qu'un instant mystique. Sans qu'il ait rien de religieux. Hein. Et j'ai l'impression que cet instant de bonheur complet vous permet d'amener la première des 7 questions sans réponse. Le bonheur n'est-il qu'un instant fugace?
Oui, quand je suis arrivé à Kandersteg, c'était un moment quand mon mariage a commencé de basculer. C'était juste avant tout avec Max. Et j'ai décidé d'avoir une semaine seule et faire de ce qu'ils font. Je suis arrivé, il y avait la pluie constante. C'était fin janvier. Et puis, en fait, le mec à la réception de petit hôtel m'a dit, en fait, demain, il y aura la neige. Et je lui ai dit, vous êtes sûr? Et il m'a dit, si le météo suisse a dit, il y aura la neige, il y aura la neige.
Ah. Vous dites même l'Office fédéral de la météorologie. Ça, on rigole pas avec l'Office fédéral de la météorologie.
Et puis, en fait, le lendemain, 30 cm de neige, c'était magnifique. Avec des Alpes bernoises, c'est correct, oui. Et je suis parti et après une demi-heure, j'étais au milieu d'un champ, absolument seul. Et en fait, la neige était féroce et tout a disparu. Je suis en face du mont complètement blanc. Et c'était un moment quand toutes de mes valises, parce qu'on porte ses propres valises partout avec toutes des choses pathologiques, névrotiques, tous des problèmes, toutes des inquiétudes, tout a disparu. Pendant peut-être 10 minutes. Pour moi, ça, c'est du bonheur. Parce que c'est très rare d'avoir enfin, un moment comme ça. Montrez-moi une journée sans des inquiétudes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une journée sans des inquiétudes? Peut-être qu'il y a un scientologue ici qui... mais franchement, voilà la preuve.
Mais je reviens à ce moment mystique, parce que vous vivez un moment tout à fait particulier. Il y a une prise de conscience à ce moment-là à Kandersteg, qui n'est pas étrangère à l'écriture de ce livre, quelque part.
Oui, mais aussi, pour moi, je pense que je cherche tout le temps une dimension spirituelle. Pas comme de manière où je cherche, mais ça arrive. Honnêtement, la foi des autres me fascine. J'ai écrit au pays de Dieu, où j'ai voyagé dans le centre de la Bible aux États-Unis, en fait, au-delà des pyramides. J'ai passé...
La ceinture de la Bible.
Oui, le centre, oui.
Bible Belt.
Le Bible Belt, oui, au sud des États-Unis. En fait, j'ai passé, quand j'ai écrit, en fait, au pays de, au-delà des pyramides, j'ai passé une semaine avec des fondamentalistes islamiques dans une ville qui s'appelle Assut, dans le sud d'Égypte. Ça, c'était une époque quand c'était possible et on ne sera pas kidnappé. Honnêtement, au sujet, derrière de la foi, il y a l'idée d'une certaine vérité divine. La foi, pour moi, c'est un espoir, peut-être c'est un conte de fées, mais aussi... C'est complètement atypique et à la fin, c'est une interprétation. Et le truc, en fait, je ne suis pas ni athée ni pratiquant. Je serais très content de porter un t-shirt avec deux mots. Aucune idée. Je n'ai aucune idée si, en fait, je n'ai pas aucune idée si après cette vie, il y aura quelque chose. Ou pas, mais il y a des moments quand on est en dehors des choses quotidiennes, peut-être dans la nature, surtout pour moi, avec la musique classique et du jazz aussi, quand on trouve des choses plus élevées que franchement des choses quotidiennes. Et pour moi, ça c'est très important. J'ai écrit une nouvelle pour William Christie et Les Enfleurissants pour le dernier coffret. Bill Christie m'a abordé pour demander si je peux écrire quelque chose. Et c'était en fait pendant le week-end de Pâques, à la nouvelle philharmonie à Paris qui est magnifique. Les Enfleurissants sur la baguette de Christie a fait une représentation de Messe en si mineur de Bach que j'adore. C'est très joyeux. Et à la fin, en fait, j'ai fait la révérence à Christy et je lui ai dit, c'est tutoyé entre nous, tu sais Bill, en fait, je ne crois pas en Dieu, mais je crois en Johann Sebastian Bach.
C'est presque pareil.
Presque pareil, tout à fait, presque pareil, en fait. Et je cherche des moments comme ça parce que, aussi, c'est l'idée des choses mystérieuses. Des choses métaphysiques. Je n'en ai aucune idée. Et le problème pour moi avec la foi, quand quelqu'un m'a dit, en fait, je connais la vérité, j'ai un copain de l'université, c'est une histoire très américaine, en fait, Paul, à l'université, il était hyper, hyper marxiste. C'est le début des années 70. Et après l'université, de manière très américaine, il est devenu le directeur de marketing du régime Atkins. Seulement aux États-Unis. Du marxisme au régime Atkins. Et puis, il a rencontré une femme que je ne supportais pas, très correcte, très raide. Et grâce à cette femme, il a rencontré Jésus. Et tout le temps, en fait, oui, tout le temps, il parle de Jésus mon pote. Et je lui ai dit, mais honnêtement, Paul, ça, tu as échangé une raison d'être pour un autre, un système pour un autre, le marxisme. Et maintenant, tu es très néo-chrétien. Et c'est impossible à dire j'ai la vérité. C'est impossible. Je préfère ça. Je préfère l'idée d'aucune idée.
Alors, votre livre, il est très intéressant parce que il lève une partie du voile sur qui vous êtes. Il permet de comprendre pourquoi vous écrivez, comment vous écrivez. Il soulève ces grandes questions. Et pour avoir cette certaine élévation, il faut commencer par se regarder en face. Et d'une certaine manière, votre livre, il nous bouscule pas mal. Moi, il y a 2-3 fois, il m'a pas mal remué. Et je prends un exemple. Vous dites que le bonheur est semblable à l'amour, un idéal que nous poursuivons tous, mais sur le chemin duquel nous accumulons délibérément ou non un nombre d'obstacles effarants. Ce qui nous amène à la véritable question, voulons-nous vraiment être heureux? Et ça, c'est une des questions centrales de ce livre.
La question de bonheur, surtout avec quelqu'un d'autre, j'écris tout le temps au sujet des couples, parce que créer une vie avec quelqu'un, ça c'est un des plus grands défis d'une vie.
Alors si vous permettez, si vous êtes sur le point de commencer une relation, ne lisez pas ce livre, parce que pour sûr, vous partez en courant.
Oui. Mais tout le monde m'a dit, mais toujours, il y a des couples... avec des grands problèmes dans vos romans. Et j'ai répondu, un couple heureux, c'est très rare. Mais aussi, où est l'histoire? C'est comme le trois petits cochons et le grand méchant loup. Sans le grand méchant loup, il n'a pas un problème sans le grand méchant loup. Mais le truc aussi, en fait, le bonheur, j'ai dit ça à ma fille Amelia, après une rupture avec son petit ami. En fait, j'ai dit... La vérité est, après, quand on est parent, on est responsable pour le bonheur d'un enfant jusqu'à d'un certain âge. Et après ça, c'est le problème. On n'est jamais responsable pour le bonheur d'un autre. Jamais. J'ai déjeuné récemment avec une copine à New York, camarade de classe, en fait, avocate brillante, mon âge, 61 ans. Divorcée, elle est ensemble avec un avocat plus âgé, fin de la soixantaine, un homme de grand succès, beaucoup de pouvoir, mais toujours fâché. Elle m'a dit ça, toujours fâché, des reproches constants. Et je lui ai dit, Anne, pourquoi tu restes? Ah, il a besoin de moi. Et honnêtement, en fait, il a eu une enfance pas terrible. Et j'ai répondu, j'ai eu une enfance difficile et je ne suis quelqu'un qui fait des reproches. Pourquoi? Peut-être je peux le changer. Ça c'est une catastrophe.
C'est le pire.
Ça c'est toujours. Je l'ai dit, ça, c'est de changer quelqu'un d'autre à la fin de la soixantaine. Ça, c'est absurde. Ça, c'est, oui. Ça, c'est le théâtre d'absurdité. Mais, en fait, je lui ai dit, OK, en fait, tu peux rester, mais si tu continues de te plaindre que c'est si difficile, mais toujours, dans une vie, il y a toujours la sortie. C'est là-bas, toujours la sortie. Mais traverser la sortie... Ça, c'est très difficile.
Ouais, et puis, il y a l'entrée aussi. Vous pointez le doigt à plusieurs reprises dans ce livre en disant, avant d'entrer, parfois, on sait très bien qu'on ne devrait pas entrer, mais on entre quand même.
Tout à fait. Mais je suis resté dans un mariage difficile pendant 23 ans. À la fin, en fait, j'ai décidé, OK, où est la sortie? Mais c'était dur, en fait. Ça plaçait mes enfants. C'était psychologiquement, en fait. Et fiscalement, ça coûtait cher, mais en même temps, c'était absolument nécessaire. J'ai vu mon père, qui est resté dans un mariage absolument raté, et il y a une scène dans le livre, et j'utilise ça pour illustrer un certain point, quand il a raté sa carrière, quand il avait, en fait, à la fin de la cinquantaine.
Oui, il avait un caractère un peu bien trempé, ce qui lui a coûté sa place, hein, grosso modo. À
oui,
votre père.
Tout à fait. Et quand il avait 70 ans, c'était après 14 ans de lutte. Enfin, j'ai connu un grand succès avec L'homme qui voulait vivre sa vie. J'étais à New York pour signer un grand contrat. Et mon père était, franchement, j'ai remarqué, en fait, il était très mal à l'aise avec mon succès. Même si je n'ai jamais demandé un sou de lui depuis l'université. Et pendant l'université, j'ai travaillé tous les étés. J'étais toujours très indépendante. Et j'ai vécu une vie très bohémienne. Soudainement, J'avais du succès, un succès international. On a décidé de dîner à New York. Je ne suis pas quelqu'un très gourmand. J'aime des restos simples. Et mon père aussi, mais ce soir, il a insisté pour qu'on va aller d'un resto gastro. Et je lui ai dit, honnêtement, ce n'est pas nécessaire. Et en fin de compte, j'ai pensé, il n'a pas d'argent pour ça. Et je lui ai dit, OK, je vais payer. Absolument pas. En étant ce resto, il a commencé de boire des vodka martini. Toi, après deux vodka martini, franchement...
Et puis il a failli vous casser les doigts.
On va essayer de draguer une chienne, franchement. Après, les vodka martini sont dangereux. Et il a commencé de se plaindre tout le temps au sujet de ma mère. Et j'ai posé peut-être la question la plus difficile qu'on peut poser de quelqu'un. Ces quatre mots, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est immense. Donc, je lui ai dit, en fait, qu'est-ce que tu veux, papa? Et il m'a dit, oh, je veux quitter New York. Je veux vivre dans le Maine. C'est notre Bretagne. Une petite maison au bord de la mer, une 4x4, un petit bateau. Peut-être je peux enseigner le business dans un petit collège. Une petite amie, début de la cinquantaine, ça sera idéal. Et je lui ai dit, mais c'est possible, OK. Je sais que tu as des dettes, mais tu as l'appart. Il faut vendre l'appart, dont maman 65%. Elle peut acheter 3 pièces, 4 pièces à New York. Et tu peux acheter tout et avoir un autre 100 000 dans le concurrent. Pourquoi pas? Il a pris ma main et il a essayé de casser mes doigts. Vraiment. Et il m'a dit, comment oses-tu? Je suis un catholique, c'est impossible pour moi. Je n'ai pas dit, papa, je sais que tu as eu des maîtresses partout. Je lui ai dit, OK, mes excuses. Et dans ses yeux, je n'ai pas vu, en fait, la colère, c'était la peur. Et à cet instant-là, et ça, c'est partout dans mon écriture. C'est partout, par exemple, dans 5 jours. J'ai découvert, franchement, quelque chose très, très omniprésent dans la condition humaine. Tout le monde parle du bonheur, mais le malheur, c'est aussi un choix. J'en suis sûr de ça.
Alors, ça tombe bien, parce que vous le dites à plusieurs reprises dans ce livre, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, finalement, hein. Vous dites la propension de l'être humain à douter de soi est gigantesque, tout comme la haine de soi, ou du moins l'inconfort d'être soi. Vous me voyez arriver. Est-ce que c'est inconfortable d'être Douglas Kennedy aujourd'hui, ou est-ce que ça va mieux?
Ouf. Je ne suis pas quelqu'un très zen. L'équilibre, en fait, ça c'est mon écriture. Le truc. J'ai connu un succès hallucinant, en fait, 14 millions d'exemplaires. Et aussi, je suis quelqu'un qui écrit des romans très accessibles, mais j'espère littéraires. Je suis entre le roman littéraire et populaire. Et le truc pour moi, quel privilège de créer des romans et vivre dans quelqu'un endroit. Une vie comme un balle de ping-pong, je traverse l'Atlantique. Pour moi, ça, c'est le succès. Ce n'est pas une Porsche ou des choses bling-bling. C'est le fait que je peux vivre entre New York, Paris, le Maine, Montréal, Berlin, New York. L'avenir pour mes enfants, c'est sûr. Et je peux acheter des meilleures places pour la Philharmonie de Berlin quand je suis là. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai acheté des places de troisième rang. De la Philharmonie de Berlin. En dehors de ça, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais... je peux devenir un homme heureux. Je ne sais, je pense que le bonheur, c'est, comme j'ai dit, c'est ici et là. Si on écrit, on a des inquiétudes tout le temps, parce qu'on a une vie en parallèle. On a une vie en parallèle. Je pense que pour les femmes de ma vie, en fait, ça a été toujours un peu difficile parce que ma fille m'a dit quand elle avait 4 ans, oh, papa est ailleurs dans des nuages, comme d'hab, parce que Je suis au milieu de prochain roman, j'ai terminé un scénario, franchement, en fait, vendredi soir à 2h30.
Et vous êtes quand même avec nous, là.
Oui.
Oui, c'est bon.
Tout à fait. Mais le truc, en fait, quand on écrit, il y a toujours, ouais. En fait, il y a la vie et puis la vie dans la tête.
Mais ça, c'est intéressant parce que vous dites, le bonheur, c'est peut-être d'avoir une vie intéressante.
Une vie intéressante.
Mais c'est quoi une vie intéressante?
Une vie intéressante, c'est complètement atypique, en fait. Une vie intéressante pour moi, c'est accepter. Ça, c'est autre chose. Et on va parler de pardon dans
un
instant. Mais accepter le fait que la vie est un grand mélange. Mm-hmm. Et franchement, il y a des choses pas terribles pendant une vie. Peut-être des choses tragiques. Et aussi, franchement, quand je commence à créer un personnage dans mes romans, je pense tout le temps au sujet des choses pathologiques, parce que tout le monde a des choses pathologiques. Tout le monde. Tout le monde est névrotique. Et aussi, d'après mon expérience, même si j'ai rencontré des gens de succès de temps en temps, je ne suis pas quelqu'un de très mondain, mais même si on a eu un grand succès, tout le monde a un aspect dessus. Et peut-être la plus grande déception dans la vie, c'est soi-même. Mm-hmm. Donc, une vie intéressante pour moi, maintenir la curiosité, et une certaine passion pour la vie. Et pour moi, je fonctionne comme une éponge. Peut-être ça, c'est un aspect de ma vie culturelle, en fait. Quand j'étais à Londres il y a 4 jours, j'ai écouté, en fait, un grand concert sur le baguette de Jean-Léon Gardner. Il y avait une exposition de Royal Academy de l'expression abstraite. Deux pièces de théâtre, la nouvelle pièce de théâtre de David Hare, des conversations intéressantes avec mon éditrice et mon agent, des copains, copines intéressants. Je lis tout le temps. Je lis 2 livres par semaine. Je ne suis pas très télé, en fait. J'entends la radio tout le temps. J'absorbe des magazines, des journaux littéraires. J'essaie de lire en ligne, en fait, rapidement, mais 4 journaux par jour. Je vis dans le monde actuel et j'ai une vie très intéressante, mais ce n'est pas une vie heureuse tout le temps.
Alors ça tombe bien parce que vous venez de dire que vous lisez beaucoup et il y a une phrase au tout début du livre qui m'a moi beaucoup frappé. Vous dites « J'ai toujours été convaincu que si nous lisons, c'est avant tout parce que nous éprouvons le besoin de vérifier que nous ne sommes pas seuls. »
Tout à fait.
Ça veut dire que vous avez l'impression d'être seul encore ?
Oh, mais tout le monde est seul. Ça, c'est la condition humaine. Tout le monde est seul, même si on est très proche de quelqu'un. Tout le monde est seul. J'ai dîné, en fait, à Londres après la pièce de David Hare avec un autre camarade de classe qui était ensemble avec son mari pendant 38 ans. Ça, c'était un mariage très heureux, avec des problèmes, mais très heureux. 3 fils, elle est peintre, et son mari, il a eu une douleur, en fait, en janvier, il est mort en novembre l'année dernière. Elle était dévastée et le truc, ça c'est aussi, comme j'ai dit au sujet de Max, le vernis est toujours fragile et tout peut changer comme ça. Et après d'un certain âge, si on ne fume pas 2 paquets de cigarettes par jour et on ne boit pas une bouteille de whisky en fait bon marché par jour, franchement, on vit dans le casino génétique. Et on n'en a aucune idée qui, en fait, des choses horribles vont arriver. On ne peut pas réfléchir de ça tout le temps, mais Montaigne a dit il faut réfléchir à la mort tous les jours pour vivre. Et pas de manière glauque, mais de manière, il faut profiter.
Il y a aussi dans ce livre quelques réflexions sur le métier d'écrivain, et puis vous vous référez notamment à votre cher Graham Greene, et à son idée de stalactite dans le cœur d'un écrivain. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Cette stalactite qui vous fait écrire que le seul outil nécessaire à la création est la soif de persévérance. Être écrivain, c'est persévérer.
Je pense d'être humain, c'est de persévérer. La persévérance, ça, c'est primordial dans une vie. Et honnêtement, en fait, surtout pour un écrivain, parce qu'on est seul avec le manuscrit, avec soi-même, avec ses propres doutes, oui, la persévérance. Aussi parce que écrire un livre, c'est un marathon. En fait, toutes ces grandes questions, c'est mon 17e. Oui, la question de persévérance, mais c'est partout dans une vie. partout dans une vie. Et honnêtement, ce n'est pas comme j'ai un point de vue très optimiste, très américain. En fait, oui, demain, l'aube, des choses comme ça. Mais il y a des moments, des périodes hyper, hyper difficiles. Et il faut se vivre. En fait, il y a une citation de Samuel Beckett que j'adore. Je ne veux pas continuer, je vais continuer. Ça, c'est la persévérance.
Il en a une autre, si vous permettez, qui dit échouer, échouer encore, échouer mieux.
Échouer mieux, tout à fait. Ça, c'est la vie d'un écrivain aussi. Mais aussi, au milieu du livre, il y a peut-être le chapitre le plus important, c'est au sujet de pardon.
Oui, absolument. On y vient. J'ai écrit d'ailleurs le chapitre peut-être le plus important de votre livre, est celui consacré au pardon. Il s'appelle « Pourquoi le pardon est-il, entre parenthèses, hélas, point d'exclamation, la seule solution ?» Vous nous y racontez vos rapports plus que conflictuels avec vos parents, dont vous vous êtes libéré finalement en évacuant la colère. Évacuer la colère, c'est la condition préalable au pardon ?
Le truc, évacuer la colère, ce n'est pas comme il y a une méthode. Il y a beaucoup de livres au sujet de ça. On a une expression aux États-Unis, self-help, auto-aide. Voici la recette pour la vie. Comment on peut trouver un vrai équilibre? Il y a plusieurs livres comme ça. Et ils sont complètement nuls. Parce qu'il n'y a pas de recette. Et comme j'ai dit, en fait, si tout le monde est dessous, tout le monde a un aspect aussi colorique. Ça, c'est aussi un aspect de la condition humaine, un aspect fâché. Et le truc, le pardon, ce n'est pas comme on va porter le rôle de Gandhi ou Nelson Mandela, et il y a un fan hollywoodien, tout le monde va embrasser, on est copains maintenant, l'aube, et voici l'aube. Non, en fait, le pardon, c'est quelque chose qu'on fait seulement pour soi-même. Mais c'est si difficile à faire. Parce que le truc, dans les mythes grecs, il y a le mythe de Sisyphe. La colère, c'est comme ça. On se répète. Et même si on va pardonner quelqu'un, il y a toujours un aspect colorique. Mais pour moi, le pardon, en fait, il y a un lien entre le pardon et le fait qu'il faut accepter certaines choses. Et surtout le fait qu'on ne peut pas changer certaines choses. J'ai une phrase que j'ai dit à quelqu'un récemment au sujet de pardon. Il faut dire, OK, c'est comme ça. Très simple, c'est comme ça. Pour moi, ça c'était la clé. Je ne peux pas changer des choses, c'est comme ça. Et si je reste fâchés, ils vont gagner. Et donc, pardonner des autres, on peut détoxifier soi-même. Mais en même temps, en fait, ce n'est pas comme je suis un saint très zen. Il y a des moments quand je réfléchis de mes parents ou mes frères et je pense comme ça. Mais en même temps, c'est plus simple maintenant parce que j'ai décidé, c'est comme ça. L'accepter, c'est très, très difficile, en fait. Je me souviens très, très bien, en fait, j'ai vu une pièce de théâtre très intéressante qui était filmée, qui s'appelle Osage County, de Tracy Letts. C'était une réunion d'une famille. Et c'est toujours l'idée, franchement, c'est comme beaucoup de Noël chez moi, enfin, quand je suis revenu de Dublin ou Londres, avec l'idée que ce Noël, tout sera comme chez nous. Et après 24, les dessous de famille a commencé.
C'est le bordel de nouveau.
Ouais. Et Noël, la plupart du temps, c'est un bordel. Ouais. Surtout dans une famille. Mais il y a toujours, en fait, l'espérance que tout va changer. C'est comme, en fait, quand on essaie de convaincre quelqu'un de votre point de vue, fréquemment, c'est impossible. J'ai dit ça récemment d'une copine au milieu d'un divorce impitoyable et j'étais dans un divorce impitoyable. Si tu continues à parler ou envoyer en fait des emails au milieu de la nuit à ta femme, en fait, c'est désastreux parce que tu continues la négociation. Laisse tomber. C'est comme ça. Accepte la situation. Mais c'est très difficile parce que toujours, en fait, on a un aspect, mais j'ai raison. Existentiellement, c'est comme un divorce. Il y avait un mariage et après deux versions compétitives des mêmes événements. Qui a raison ici? Moi-même, naturellement, mais la vérité, personne. C'est ça. Ça, c'est. On a sa propre vérité, en fait. Elle a. Oui, en fait, la sienne. Personne a raison.
Alors c'est extrêmement difficile de pardonner, d'abord parce qu'il faut être empathique pour pardonner, mais vous dites très justement que finalement, il faut surtout être empathique envers soi-même. C'est à soi-même que le pardon rend le plus grand service. Et vous dites notre...
Ça, c'est très difficile aussi.
Oui, c'est difficile.
Ça, c'est très difficile.
Et vous dites que notre réticence à pardonner à autrui résulterait... Enfin, vous posez la question. Notre réticence à pardonner à autrui résulterait-elle de notre refus de nous pardonner à nous-mêmes? Et ça, c'est une question centrale, je pense.
Oui, tout à fait. En fait... Vivre avec soi-même, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Surtout, comme j'ai dit, en fait, il y a 10 minutes, en fait, la plus grande déception, c'est soi-même. Mais ça, c'est aussi une petite digression, en fait. La question de la liberté, c'est partout dans la vie. Tout le monde rêve de la liberté, mais quelle est la liberté? Et le truc, en fait, dans une vie, c'est très rare de trouver un personnage très Hemingway-esque. Mais Hemingway, par exemple, même si, franchement, en fait, son vernis public, c'était un homme hyper indépendant, un homme du monde, franchement, qui voyage tout le temps en dehors des choses héroïques. La vérité, il y avait un aspect de ça. Mais 4 femmes, toujours avec une femme, et sa 3e femme, Martha Gellhorn, qui était une grande reporter de la guerre, l'a trouvé un gosse. Elle a écrit ça. J'ai rencontré Martha une fois à la fin de sa vie à Londres où elle habitait. Et une gosse, mais et aussi quelqu'un qui a besoin d'une mère tout le temps. Et le truc, la liberté, ça, c'est aussi, en fait, un rêve. Mais pendant une vie, une question philosophique. Si chaque vie est un roman, qui est le romancier derrière de cette vie? C'est soi-même. Et aussi, si on pense, oh mon Dieu, j'ai trop de responsabilités, en fait, une maison, oui, en fait, un mariage, des enfants, le boulot, en fait... de voitures, blablabla, des frais, en fait, éducatifs. En fait, j'ai vécu cette vie. Mais qui a créé ça? C'est soi-même. Et donc, ça, c'est un dilemme que j'utilise tout le temps. C'est partout, en fait, dans l'homme qui voulait vivre sa vie, par exemple, en créer sa propre prison. Et en créer des frontières tout le temps. On limite soi-même. Et je ne vais pas critiquer ça parce que, en même temps, une vie sans responsabilité, ça sera autre chose aussi. Je pense que ce sera impossible pour moi, en fait, d'avoir 2 enfants. Mes 2 enfants sont le centre de ma vie. Mais 2 fois pendant une vie, ça c'était suffisant. Après mon divorce, j'ai dit à tout le monde, oui, certaines femmes, absolument pas. C'est fini pour moi. J'ai vu des hommes à la 50aine avec un bébé dans le parc, avec un visage d'une... Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Il y a une expression aux États-Unis, buyer's regret, le regret d'acheteur. Oui. mais en même temps, en fait, avoir des enfants, ça c'est la plus grande responsabilité imaginable, en fait. Mais aussi, c'est complètement magnifique. Ça a changé mon écriture. Mais ça a changé, en fait, l'idée de la liberté. Qui est libre? Qui est libre?
Alors, dans toutes ces grandes questions sans réponse, Jacques Chancel dirait « Et Dieu dans tout ça ?» Parce que finalement, il faut se poser la question. Vous en parlez et vous dites « Jamais encore je n'avais aussi clairement perçu que la foi individuelle est avant tout la recherche d'une consolation face à l'assourdissant mutisme des cieux. » Dieu est là-haut, ça ne parle pas beaucoup. Hein.
Dieu est franchement est une interprétation. Complètement, en fait. Pour moi, comme j'ai dit, Dieu c'est Johann Sebastian Bach. C'est un moment dans un champ en dehors de Kandersteg, en fait. Mais l'idée que... Quand ma fille avait 10 ans, sa meilleure amie, meilleure copine, était renversée par une voiture près de chez nous à Londres, et elle est morte. Et elle était dans une école très anglicane. Et le lendemain, en fait, la directrice a dit, Marley, elle s'appelle Marley, avec Dieu. Et ma fille qui avait 10 ans m'a dit, mais si elle est avec Dieu, pourquoi? Et pourquoi il a permis ça? Et j'ai répondu, Dieu est simplement, c'est très personnel. Le truc, tout le monde cherche, on peut peut-être terminer avec ça, mais tout le monde cherche des réponses. Dieu, c'est en fait la réponse la plus constante pendant en fait l'histoire humaine, parce que c'est la force en dehors de tout. Je n'ai jamais critiqué en fait des gens avec une grande foi. Franchement, en fait, j'admire certaines choses, pas quand ils vont essayer de contrôler en fait la société, pas quand ils ont essayé parce que ou par exemple aux États-Unis et dans le monde islam, en fait, des choses très misogynes derrière de la religion. Je déteste ça. Aussi parce que je crois d'une des sociétés laïques. Mais une dimension spirituelle, c'est si, si personnel.
Alors, j'aimerais m'arrêter là-dessus parce que j'ai pas réussi à me faire un avis sur votre position par rapport à ça. Alors, la religion, non. Ça, j'ai bien compris que vous n'adhériez à aucun dogme. Mais vous dites, par exemple, à un moment, que chaque fois, vous trouvez chaque fois un grand réconfort dans la cohésion de la communauté anglicane et dans son extraordinaire tradition chorale. Il y a un autre épisode dans ce livre où vous passez très près de la mort, où vous êtes prêt de choisir la mort, et le réconfort, vous allez le trouver dans une église, d'une certaine manière. Et je pense que vous avez un rapport au mystique qui est assez fort, quand même.
Ok, un exemple. Je vis dans le 10e arrondissement de Paris. Ah. Et ça, cette histoire, c'est aussi la musique du hasard. Le 12 novembre 2015, j'ai terminé mon écriture. C'était franchement 20 heures. Et j'ai décidé de me balader, manger seul, et j'étais dans mon quartier, en face de Bataclan, et le resto Petit Cambodge, 24 heures avant des attentats. Le 13 novembre, j'étais à Londres, j'ai reçu un appel à 22 heures à Londres de mon avocat à Paris, Stéphane, qui m'a dit, où es-tu? Et j'ai dit, à Londres, oh, Dieu merci. Et il m'a dit, il faut regarder la BBC tout de suite. Le lendemain, en fait, toutes les frontières françaises étaient fermées. J'ai décidé de prendre un vol directement lors de New York. Le 14, en fait, je me suis levé. En fait, j'ai passé en fait la soirée avec un copain qui était un pianiste de jazz russe. Et ses camarades, j'avais un goût de boire. Et aussi, après des événements à Paris, en fait, j'ai décidé à boire. Mais le 14, en fait, j'ai quitté chez moi vers 15h30. Je me suis baladé dans la 5e avenue à Saint-Thomas. C'est une cathédrale anglicane près du musée de l'art moderne. Et tous les dimanches et aussi jeudi, il y a Evensong. C'est le rite sacré de l'église anglicane. Et le chœur là-bas, c'est dans la tradition anglaise. Et pour moi, ça, c'était franchement, en fait, un échappatoire du monde et aussi une certaine révérence pour le fait que 135 personnes ont perdu ses vies d'une manière absolument dégueulasse. Et par hasard aussi. Pas par hasard, mais par hasard parce qu'il était là-bas. Et le fait que tout est fragile. Et oui, c'était magnifique, mais est-ce que c'est vrai que j'étais aux présences de Dieu? Non. C'était un moment franchement, en fait, rassurant, parce que esthétiquement, c'était si magnifique.
On parlait des chants anglicans, on va terminer avec la musique parce qu'elle est vraiment extrêmement importante dans ce livre. Pour chacune des 7 questions, vous donnez un certain nombre d'exemples que vous prenez soit dans votre propre vie, soit dans la vie de vos amis, mais surtout dans la musique, que ce soit la 9e symphonie de Mahler, le Requiem allemand de Brahms ou les Noces de Figaro de Mozart, vous allez y trouver la démonstration de ce que vous nous expliquez finalement. J'ai le sentiment que ces œuvres musicales ont joué un grand rôle dans votre vie, qu'elles vous ont aidé, vous, à comprendre un certain nombre de ces fameuses grandes questions.
Je pense que, par exemple, dans les symphonies de Mahler, je suis quelqu'un qui peut parler avec des autres accros de la musique classique pendant 4 heures, discuter en fait 5 versions de 5e symphonie de Mahler, la différence entre Bernstein, Haitink, Abbado, en fait, Barbaroli, en fait, Bruno Walter des années 50. C'est une passion privée. Mais le truc chez Mahler, par exemple, qui est un compositeur hyper important pour moi, partout dans son œuvre, il y a l'idée de très existentielle aussi d'individuel seul dans un monde impitoyable. Et la persévérance, la souffrance aussi. Mais le truc, en fait, je crée avec la musique classique derrière moi tout le temps. Radio classique, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. En fait, j'ai une radio internet dans toutes mes résidences. Et c'est un décor constant de ma vie. Est-ce que c'est mon église? Oui. Mais c'est une église laïque, mais avec une dimension spirituelle. Et le truc, en fait, ça c'est le truc, en fait, je peux écouter une pièce de la musique et avoir certaines réflexions. Et vous aurez des réflexions complètement différentes. Ça, c'est le truc. Pour moi, peut-être que je vais terminer avec ça. J'ai dit ça récemment avec une journaliste française. Le but de ma vie a été toujours d'éviter l'ennui. Pour moi, l'ennui, surtout, on a eu des opportunités éducatives. Ça, c'est le péché mortel. L'ennui est tragique. Rester intéressant, même si la vie est fréquemment très, très dure. Mais comme j'ai dit, à la fin, une vie heureuse, ici et là, une vie intéressante, ça c'est pas mal. Merci à vous.
Merci beaucoup. Voilà, on a quelques minutes pour vos questions, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions pour Douglas Kennedy, qui a déjà beaucoup parlé, mais enfin, il est prêt à répondre à quelques questions. C'est monsieur qui a la première. On vous apporte un micro. Visiblement, oui, on a un micro qui fonctionne. Voilà, il arrive au pas de course, ou presque. Il arrive avec élégance. Voilà, on vous écoute.
Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces quelques minutes passées en votre compagnie. Vous avez parlé du bonheur.
Ici, ouais, il faut pas. Alors, je vous donne un tout petit cours de micro très rapide. Le micro, avec cette marque de micro, 45 degrés, comme ça, vous voyez, à peu près, comme si vous mangez une glace.
45 degrés.
Voilà, c'est ça, c'est bon. Comme,
d'accord. Vous avez parlé du bonheur et du mal-être, du vôtre et de celui de vos amis, à qui vous avez prodigué quelques bons conseils. Alors, j'ai une petite idée sur la question qui vient, mais vous me direz, vous me donnerez votre réponse. Êtes-vous d'un tempérament optimiste ou pessimiste?
Le verre à moitié plein ou à moitié vide, oui, c'est la vraie question.
Ni optimiste ni pessimiste, très réaliste.
donc je vous remets un peu d'eau.
Mais très réaliste. En fait, mon ex-femme m'a dit une fois à la fin, ton problème Douglas, j'ai franchement une nouvelle qui s'appelle ton problème. C'est tu vois le monde avec trop de clarté. Le truc, en fait, je suis très réaliste au sujet de la condition humaine. Et le fait que peut-être le plus grand mystère, c'est soi-même aussi. Il faut rester assez optimiste. Parce que si on est complètement pessimiste, ça c'est glauque. C'est très glauque. Mais en même temps, très réaliste. Je pense que optimiste réaliste, c'est pas mal. Mais pas pessimiste, en fait. Le truc maintenant, par exemple, je vais parler des choses actuelles. En fait, je ne suis pas pessimiste au sujet de mon pays. Je suis très réaliste. Et le fait qu'il y avait une guerre culturelle, il y a une guerre culturelle qui commence en 68. Le pays est si divisé. Même si, et aussi, beaucoup d'entre nous, surtout la classe populaire et la classe moyenne, refusent de faire face au fait que, franchement, le Parti républicain, c'est contre ses propres intérêts. Et aussi, il y a, franchement, en fait, une contrefaite américaine que on est le pays préféré de Dieu. Mon point de vue au sujet de mon pays, c'est très réaliste. Et le fait que c'est un pays avec des grandes contradictions. Donc, et aussi... Oui, non, dis-moi.
Donc, d'après ce que vous dites, il y aurait matière à être pessimiste, mais vous vous forcez à être optimiste parce qu'on n'a pas d'autre solution pour être heureux.
Oui, mais si on est pessimiste, honnêtement, on n'a pas de solution. Si on est trop optimiste, on a trop de solutions. Réaliste, en fait, mais c'est comme des politiciens, ok? Quelqu'un qui est, oui, avec des réponses, est toujours dangereux, parce que c'est quelqu'un extrême. Réel politique, ça c'est idéal, en fait. Madame Merkel est très réel politique, en fait. Monsieur Obama est très réel politique. J'aime Clinton, Monsieur Clinton, et j'en suis sûr, Madame Clinton sera très réelle politique aussi. Ça, c'est une position assez stable, assez. Et franchement, au sujet de la vie, en fait, réaliste, mais aussi, il faut. Si on est trop pessimiste, on n'a pas de joie, des choses joyeuses. Ça, c'est essentiel de garder ça. Mais je suis très centriste. Une autre question.
Merci.
Votre question. Madame, on vous apporte un micro. Voilà, ici au premier rang. Et on vous écoute.
Oui. Pourriez-vous nous donner vos impressions de l'élection américaine maintenant?
Vous avez 2 heures, 2 heures et demie devant vous.
Ah oui. Avez-vous 2 heures? Simplement comparé à Trump, George W. Bush et Bismarck. Depuis, en fait, une petite leçon historique. L'histoire américaine, c'est mon sujet à l'université. Au début, en fait, j'ai pensé, en fait, je vais devenir universitaire. Et je suis passionné par mon pays. Surtout parce que j'habitais 30 ans en dehors de ça, donc j'ai un point de vue très mélangé entre l'Europe et l'Amérique du Nord. En 68, Richard Nixon, pour gagner la Maison-Blanche, a créé la stratégie du Sud, capturer le Sud des États-Unis. Historiquement, le Sud, c'était hyper démocrate. Parce que le Parti républicain, c'était le parti de Lincoln. Et puis, Lyndon Johnson, un homme du Texas, a signé, en fait, il a insisté pour des droits de l'homme pour des Africains-Américains. Il a signé 2 lois très importantes en 64 et 65 pour garantir des votes des Africains-Américains et des droits des Africains-Américains. Il a dit à l'époque, j'ai perdu de manière permanente le Sud pour le Parti démocrate. Si on regarde la carte américaine avec des états, vous connaissez les états bleus et rouges, le Sud c'est 100% rouge. Et le centre aussi c'est rouge. Nixon aussi a créé une guerre culturelle aux États-Unis contre des élites. Parce que Nixon était obsédé par les élites. Parce que c'était un homme d'une famille très bourgeoise. Il a gagné une place à Harvard, mais son père a refusé de payer, en fait, des frais. Il est dans une petite université, très médiocre. Il était furieux. Et il a dit, et ça c'est toujours pendant en fait une période très révolutionnaire, avec des manifs sur des facs partout et contre la guerre vietnamienne. Il y a une vraie majorité morale aux États-Unis. Et, l'Amérique profonde, ça c'est des vrais Américains. Ça c'était le début de la situation maintenant où il y a des côtes ouest et est, la plupart progressistes ouverts, et l'Amérique profonde qui est hyper, un pays hyper conservateur. Comme j'ai dit beaucoup de fois, je suis le type d'Américain que le Parti républicain déteste. Je suis citadin new-yorkais. J'ai des idées progressistes, très féministes. J'ai des copains et copines homosexuelles. Et peut-être le plus grand péché, je parle français.
Totalement infréquentable.
Tout à fait. Mais honnêtement, en fait, Trump, c'est le résultat de cette guerre culturelle et le fait que, surtout pendant les années 80 et 90, et au début de l'an 2000, les néo-chrétiennes ont eu un certain pouvoir immense dans le Parti républicain. Ça a diminué un peu. Trump, il est une clown. Il est absurde, en fait. Le mec, en fait, il n'a aucun intellect. C'est un plutocrate sale, un homme de fer corrompu, misogyne, anti-intellectuel, et 40% de la population soutient Trump. Voici, en fait, des contradictions des États-Unis. En fait, 20% des Américains sont très, très bien éduqués. Ça, c'est 70 millions d'Américains. Ça, c'est plus grand que la France, ou le Royaume-Uni, ou l'Allemagne. Mais il y a un autre 60 millions d'Américains. Et le truc aussi aux États-Unis maintenant, en fait, comme j'ai dit au début de cette conversation, j'ai grandi du membre de la classe moyenne. C'était possible, si on était un membre de la classe moyenne, d'avoir une vie, en fait, très acceptable. Maintenant, depuis l'époque de Reagan, qui a détruit la classe moyenne et l'augmentation des plutocrates, la première personne, tout coûte très, très cher. Et la classe moyenne lutte tout le temps. Et il y a beaucoup de la colère partout. Mais ça, c'est le truc maintenant partout. Regardez la France, regardez en Allemagne, à Dresden, l'augmentation de l'extrême droite. L'Hongrie, en fait, c'est partout. Comme j'ai dit beaucoup de fois, personne ne se souvient des années 30. Et c'est un moment franchement très tendu. Donc, les sondages sont très favorables. J'ai une femme québécoise, donc j'ai le droit de vivre au Canada et un passeport irlandais aussi, qui était franchement très pratique après Brexit. Donc, si M. Trump est élu, en fait, je vais fuir. Mais je pense que ça n'a pas arrivé. Mais on verra. Tout le monde a pensé, parce que j'habitais à Londres pendant 23 ans, j'ai une appart là-bas, et tout le monde a pensé, non, Brexit, c'est pas possible. On verra. Mais pour l'instant, en fait, on a un autre 16 jours de cercle. Après ça, j'espère que ce sera derrière de nous. Une dernière question?
Oui, une dernière. Elle sera pour vous. Ah ouais, d'accord. Combien de masses sont levées? Okay. Vous êtes d'accord? On prend les deux.
Douglas, on prend les deux dernières.
Ok.
Deux dernières. Bonjour.
Bonjour Douglas. Je voulais savoir si malgré vos premiers jours de pluie à Candlestick, vous appréciez notre pays et peut-être vous pensiez passer et vous y trouver encore d'autres moments de bonheur.
Ah bah, un passeport de plus, le passeport suisse, ce serait sympa, non?
On verra. Bizarrement, en fait, le scénario que j'ai terminé il y a 36 heures, en fait, c'est une banquier française qui vit à Genève. Donc
ça existe, ça?
Non, des Français françaises à Genève, pas du tout. Non, la Suisse me fascine. C'est un de mes pays préférés, en fait. Je pense que c'est un pays très complexe, très dense, beaucoup d'influence, trois langues. Le système de canton est très intéressant. Et aussi, en fait, beaucoup d'influence, c'est le pays de Calvin aussi. Mais aussi très catholique. Et donc, il y a beaucoup de choses ici, et beaucoup de choses cachées. Et ça m'intéresse toujours. Et oui, en fait, je pense que oui, je suis un grand fan aussi d'un réalisateur suisse, Alain Tanner, qui est brillant, tout à fait. La Salamande, oui, et Jonah aussi, oui.
Qui aura 20 ans en 2000.
En 2000, tout à fait.
Ok, il connaît bien la Suisse.
La dernière question.
Oui, bonjour. Ça me fait plaisir de rencontrer une compatriote. Je suis québécoise aussi. Je viens de Montréal aussi.
Ok, non, c'est ma femme.
Oui, mais vous êtes maintenant canadien.
Ok, voilà.
Je voulais savoir si vous trouvez...
Vous n'avez pas l'accent québécois, comme ça.
Je peux le prendre quand vous voulez, si vous voulez.
Allons-y avec l'accent, juste pour voir.
Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là, comme
ça. Posez la question à votre accent.
On n'a pas l'accent comme ça, justement. Je voulais savoir si vous trouvez que les Québécois, on est très près des États-Unis, on est d'accord. Est-ce que vous trouvez qu'on a une mentalité qui est plus américaine ou plus européenne?
Complètement québécois.
Complètement québécois. Donc, vous êtes d'accord qu'on peut se dissocier aussi du reste du Canada, hein, quelque part? On n'est pas. On dit on est québécois, on n'est pas canadien.
OK, OK. Ma femme est québécoise. Et quand j'étais dans un programme à la télé, en fait, il y a à la Radio-Canada, il y a trois ans, qui s'appelle Tout le monde en parle. C'est le Drucker du Québec. J'étais à côté d'une jeune politicien qui s'appelle Justin Trudeau. Qui était franchement, en fait, un homme assez intéressant, très intéressant. Mais je reste en dehors, c'est comme la France, en fait. Il y a deux semaines à LCI, en fait, la présentatrice m'a demandé qu'est-ce que vous pensez des élections 2017. Et j'ai répondu, ça c'est un piège. Je reste en dehors des choses politiques ici. En privé, naturellement, en fait, j'ai mon point de vue au sujet. Des choses, en fait, des élections françaises. La même chose au Québec. Le truc, pour moi, au Québec, si on est américain qui parle le français couramment, on est comme un ours qui danse au cirque. C'est très rare. J'adore le fait qu'il y a, franchement, une société francophone en Amérique du Nord. Je reste en dehors des choses comme la loi 101, où quand tous les panneaux étaient complètement francophones. Je reste en dehors des choses comme ça. Je reste en dehors de mes pensées de Parti québécois, de Pauline Marois, des choses. Je suis très au courant parce que j'absorbe tout le temps. Et je serai au Québec en fait en lundi parce que je vais commencer un voyage de promotion pour toutes ces grandes questions. Et ce sera la même chose. Le truc, en fait, tout change au Québec si on parle la langue. J'ai un appart à Vieux-Montréal, près de marché Bonsecours. Et avant nous, il y avait un couple américain qui était des propriétaires et ils ont refusé de parler en français. Et avec les voisins, c'était un désastre. Ma femme, elle est anglophone, elle a grandi, à Montréal, elle est psychoanalyste. Mais ses parents étaient des émigrés de Budapest en 56. Après, oui, tout à fait. Mais elle a son diplôme de McGill, mais son doctorat de l'Université de Montréal. Donc, comme moi, elle est complètement bilingue. Et ça change complètement. Mais j'adore le Québec. C'est une province extraordinaire. Et pour moi, c'est... par exemple, je déteste Toronto. Parce que, c'est une ville moche. Et aussi, pas très intéressant. Le Québec, c'est le seul endroit au Canada où je peux vivre.
Et quand il est au Canada, il dit « J'aime beaucoup Lausanne, mais pas Genève. C'est une ville moche. » Oui. Ah non, vous ne faites pas ça.
Non.
Très bien, je vous demande encore quelques minutes d'attention. Douglas, restez avec nous. Sylvie Berthier-Rossi, la directrice du livre sur l'IKEA, aimerait vous dire quelques mots.
Alors, juste en conclusion de ce dernier rendez-vous, de ce triptyque en fait annuel, déjà je voulais remercier Douglas Kennedy de nous avoir fait le plaisir et l'amitié de partager cette heure de rencontre avec nous. Merci aussi à Pascal qui a animé avec brio ces trois rendez-vous de l'année 2016. Et je vois dans le public des visages connus que nous retrouvons de rendez-vous en rendez-vous, d'un public fidèle qui suit nos activités autant au livre sur les quais à Morges que pour ses petits déjeuners. Et j'aimerais vous donner rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau triptyque sur une nouvelle thématique que vous découvrirez fin décembre, début janvier. Donc premier rendez-vous 2017. Au mois de mars, et j'espère vous y retrouver nombreux. Voilà, je vous laisse encore un moment.
Merci beaucoup. Juste un mot peut-être pour terminer, parce que le livre commence avec le ski de fond, il se termine avec le patin à glace. Et la dernière phrase du livre, je me la dis tous les matins pour me mettre en forme. Ne sois pas si raide, pense à ton équilibre, arrange-toi pour glisser. Mesdames et messieurs, merci de remercier Douglas Kennedy. Bon, Douglas... Ouais, on peut y aller encore, il le mérite.